Amen. Merci beaucoup au groupe de soutien au chant qui nous a conduits pendant tout ce moment. Et nous voulons en effet que la lumière du Seigneur puisse nous éclairer, que sa parole nous instruise. Nous sommes dans le temps qui nous prépare à Noël, qu'on appelle le temps de l'Avent. Et pendant ce temps, le peuple chrétien aime à se rappeler que s'il y a eu une première venue du Seigneur Jésus à Noël, il y en a une autre qui est annoncée et que nous attendons. Et je vous invite à lire quelques versets où Jésus nous invite à adopter une attitude dans cette attente. Et nous lisons donc Luc au chapitre 12, les versets 35 à 40. Luc 12, versets 35 à 40. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes et des femmes qui attendent que le maître vienne des noces, afin de lui ouvrir lorsqu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit. Heureux sont ses serviteurs s'il les trouve éveillés. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Jusqu'ici, notre lecture. Connaissez-vous le court-métrage intitulé « L'arroseur arrosé » C'est un film de 49 secondes réalisé par les Frères Lumière en 1892. Le premier scénario à jamais avoir été filmé. Quel est ce scénario? Un jardinier arrose son jardin. Un chenapan dans un coin met le pied sur le tuyau d'arrosage. L'homme regarde le bout de son tuyau, puisqu'il n'y a plus d'eau. Le chenapan lève son pied, le jardinier est aspergé. Il n'est pas très content, il n'apprécie pas la plaisanterie, il court après le garnement, le rattrape et l'asperge à son tour pour être corrigé. Vous savez tout sur l'arroseur arrosé. Une dernière précision, il a fallu 17 mètres de pellicule pour ces 49 secondes. Il me semble que notre texte, lu à l'approche de Noël, nous place un peu dans la situation de l'arroseur arrosé. Nous connaissons parfaitement l'histoire de Noël, où Jésus vient sur la terre dans l'humilité. Et fort de cette connaissance qui est la nôtre, un peu comme l'arroseur, il nous est facile de juger et parfois de condamner ceux qui auraient dû attendre l'envoyé de Dieu promis et qu'ils ne l'ont pas fait. En effet, beaucoup ont été surpris, ont été pris de court et n'ont pas vu ce qui se passait vraiment lors de la première venue de Jésus. Ils n'y étaient pas vraiment prêts. Ils sont passés à côté de l'événement. Jésus nous rappelle pourtant, dans le texte que nous avons lu, qu'il y aura une seconde venue où lui, le Fils de l'homme, se présentera. Il reviendra cette fois-ci du ciel. Il reviendra pour faire toutes choses nouvelles, instaurer son royaume dans de nouveaux cieux, sur une nouvelle terre. Il reviendra aussi pour juger les vivants et les morts. Il ne reviendra pas comme un petit enfant, cette fois-ci humble dans sa crèche, mais il reviendra comme le Seigneur de l'histoire, le maître de toutes choses. Ce sera la fin de ce monde-ci et le début de l'éternité. Et clairement, Jésus s'attend à être attendu ce jour-là, au moins et en tout cas en tout premier lieu par ceux qui auront cru en lui. Autrement dit, nous sommes concernés, les arroseurs que nous sommes face à ceux, à tous ceux qui n'étaient pas prêts lors de sa première venue, risquent fort d'être arrosés si nous n'attendons pas le Seigneur et sa seconde venue. Soyez, nous dit Jésus, comme des hommes et des femmes qui attendent. Jésus nous donne ici l'une des caractéristiques d'un chrétien. C'est quelqu'un qui attend. Le chrétien ne vit pas juste dans le présent, ni pour le présent, mais nous vivons notre vie présente avec une perspective. Notre vie est orientée, est éclairée par cette attente, par cette perspective. L'attente fait partie des choses qui comptent dans une vie. Même aujourd'hui, où tout va très vite, l'attente existe. Et l'attente s'impose à nous parfois. Il y a des choses qui ne se font pas et qui ne vont pas plus vite que la musique. Si vous avez un jardin, il faut attendre après avoir planté le temps de la récolte ou le temps de la floraison. Une femme enceinte doit attendre le terme de sa grossesse pour porter son enfant sur son cœur. Et si vous envoyez une demande d'emploi, même si votre courrier ne met que quelques secondes à arriver à ses destinataires, il vous faut attendre le bon vouloir de quelqu'un pour une réponse favorable. L'attente fait partie de la vie, elle est incontournable. L'attente parfois colore toute la vie. Si par exemple, samedi prochain, vous avez rendez-vous avec quelqu'un que vous aimez vraiment, tout ce que vous allez faire, aujourd'hui, demain, toute la semaine, sera éclairé par cette perspective de samedi prochain, par cette rencontre que vous attendez. Ça va remplir votre cœur, ça va vous donner des bouffées de joie, vous conduire à vous préparer à cet événement. Pendant le temps de l'attente, bien des choses vont se vivre déjà dans votre cœur. Soyez, nous dit Jésus, des hommes et des femmes qui attendent. C'est une attitude chrétienne fondamentale. Maintenant, cette attitude chrétienne, elle suscite parfois la moquerie ou les sourires entendus. Car on considère que, depuis le temps que ça dure, l'attente, la foi ne débouche pas sur grand-chose encore. Dans les années 50, Samuel Beckett a écrit une pièce de théâtre qui s'intitule « En attendant Godot ». Alors Godot, c'est une manière sarcastique de nommer Dieu. Dieu, en anglais, se dit God, et donc Godot, c'est Dieu. Et toute la pièce tourne autour de deux personnages qui sont sur une route de campagne complètement déserte, arrêtés près d'un arbre mort, et qui attendent Godot, justement, qui ne vient pas. Ils ne savent pas vraiment qui il est, mais ils espèrent qu'il apportera une réponse à leurs questions, à leurs interrogations sur la vie, etc. À la place de Godot arrivent deux personnages qui ne font que passer, qui n'apportent rien. Un jeune garçon passe aussi et il leur annonce que demain, Godot viendra peut-être. Le deuxième acte se situe le lendemain, justement. C'est la même scène, c'est le même endroit, les mêmes personnages. Les dialogues s'enfoncent dans le désespoir et encore, on annonce la venue de Godot pour demain, peut-être. Et la pièce, là. Pour Beckett, il y a là une critique de l'humanité qui attend un Dieu qui ne viendra jamais, qui attend un sens de la vie qui n'existe pas. Et il peut nous arriver parfois, dans notre foi aussi, de nous demander si nous n'attendons pas en vain. Ça fait si longtemps que Jésus a dit qu'il viendrait bientôt. C'est quand même une question que l'on peut parfois se poser. Alors Beckett n'est pas le premier à instiller ce genre de doute et de questions. Dès le temps du Nouveau Testament, on retrouve ces objections à la foi chrétienne. La deuxième épître de Pierre parle de ces moqueries, de ces moqueurs qui tournent en dérision justement l'attente de la foi. 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4. Sachez-le bien, dit l'apôtre Pierre, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Ces hommes vivront en suivant leur propre désir. Et ces hommes diront, où est donc la promesse de son retour? Car depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état au début de la création. Vous voyez la critique ? Le monde est stable, tout est pareil, rien ne change et rien ne vient. Qu'attendez-vous donc ? La réponse de l'apôtre est de rappeler que cette stabilité du monde n'est que le fruit de l'action et de la parole de Dieu qui maintient le monde. L'apôtre Pierre continue en disant aussi que le Seigneur autrefois, tout en étant celui qui maintient le monde, a frappé de destruction ce monde si stable par le déluge, par exemple. Et s'il y a du temps avant la venue du Seigneur, c'est le signe de la patience de Dieu qui veut que des hommes soient encore sauvés. Mais le jour du Seigneur, dit l'apôtre, viendra soudainement comme un voleur. Ce qui permet d'attendre avec espérance, c'est de rappeler ce que Beckett et les autres moqueurs ne veulent pas voir. C'est de rappeler que le Seigneur est déjà venu parmi nous, que le Seigneur est intervenu dans l'histoire à bien des reprises, dès les temps anciens. Il est intervenu tout spécialement en Jésus, par sa mort, par sa vie, par sa résurrection. Et tout cela, c'est du solide. Ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas juste des histoires qui ne tiennent pas. Ce sont des réalités sur lesquelles on peut s'appuyer. Et puis, il y a toutes ces fois où Dieu agit dans notre vie, lorsque nous nous ouvrons à lui, lorsque nos cœurs sont réceptifs aussi à lui, à sa présence, à son action. Il y a donc de bonnes raisons d'attendre le Seigneur si nous valorisons ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a déjà manifesté, ce qu'il continue à faire dans la vie de ceux qui l'accueillent comme leur sauveur, comme leur Seigneur. Et il y a aussi des promesses de Dieu, des promesses que Dieu a déjà réalisées partiellement en Jésus-Christ, qu'il réalise aussi dans nos vies et qui sont pour nous aussi des appuis pour regarder plus loin. L'apôtre Pierre en parle aussi et il emploie une belle image. Il dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19, « Vous faites bien de porter attention à la parole des prophètes comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. » La parole que Dieu nous donne nous accompagne comme une lumière dans la nuit de l'attente, nous dit l'apôtre Pierre. Et cette parole, elle pointe vers Jésus, qui est comparé à l'étoile du matin, cette étoile qui annonce le jour qui vient. Et déjà, dit l'apôtre Pierre, cette étoile du matin, elle brille dans nos cœurs. L'espérance est déjà présente en Jésus qui est en nous. Elle est là en nous. Nous ne sommes pas simplement dans le vide d'une attente nue. Il y a sa présence à lui, lui qui est véritablement notre espérance. Voilà quelques mots donc à dire pour placer cette attente qui nous caractérise en tant que chrétiens. Mais revenons à notre texte où Jésus nous invite à être comme des hommes et des femmes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Et la question que j'aimerais poser ici est de savoir exactement quel est le but que nous propose Jésus. Est-ce qu'il fixe comme objectif à tous ses disciples d'être présents, d'être éveillés, d'être actifs au jour précis de son retour? Ou est-ce qu'il nous demande autre chose? Si l'objectif précis que Jésus propose à ses disciples est d'être présents et éveillés au jour précis de son retour, il faut dire que beaucoup de chrétiens fidèles ont attendu en vain. Parce que ça fait des générations que des chrétiens sont restés fidèles jusqu'au bout et sont morts sans pouvoir accueillir le Seigneur à son retour. Tout simplement parce que ce retour est encore devant nous et il est au-delà de la limite de la vie terrestre de ceux qui sont morts. Et il me semble que cela nous invite à faire une distinction qui est importante. Il semble qu'il faut distinguer d'un côté l'attitude de l'attente, ce qu'elle représente à l'égard du Seigneur, et de l'autre, le fait plus précis d'être là pour accueillir le Seigneur au jour de son retour. L'attitude de l'attente est demandée à tous, toute génération chrétienne confondue, à cause de la valeur qu'elle possède, cette attitude, à cause de la place qu'elle exprime pour le Seigneur dans notre cœur. Lorsque Jésus dit au verset 36, « Soyez comme des hommes et des femmes qui attendent que leur maître vienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera », il me semble que c'est l'attitude de l'attente qu'il vise. Par contre, lorsqu'il continue au verset suivant, en envisageant un cas particulier, en disant « Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés », là, il vise une génération particulière, celle qui aura le bonheur particulier d'accueillir le Seigneur au jour de son retour. Il me semble que cette distinction est importante. Jésus ne fixe pas à tous ses disciples l'objectif d'être là au jour précis de son retour pour l'accueillir. L'important, ce n'est pas être là ou ne pas être là ce jour-là. L'important, c'est l'attitude de l'attente à cause de ce qu'elle exprime à l'égard du Seigneur. On pourrait dire qu'être là, le jour précis du retour du Seigneur, ce sera, pour ceux qui le vivront, la cerise sur le gâteau. Mais cette cerise pour le gâteau n'est pas pour tout le monde. Nous n'avons pas à en faire un objectif en soi. Nous n'avons pas non plus, me semble-t-il, à nous mettre intérieurement en transe, comme si Jésus allait revenir demain et à vivre chaque jour avec cette pression, avec cette urgence. Nous savons qu'il va venir, mais nous ne savons pas quand. Ce qui compte, c'est d'adopter une attitude d'attente. Et cela, nous pouvons le faire paisiblement, sereinement, sans avoir à renouveler chaque matin la fièvre du dernier jour. L'attitude d'attente a une valeur en soi, c'est elle qui nous est demandée. En quoi consiste cette attitude d'attente? Jésus emploie deux images. La première décrit un geste qu'il faut remettre dans son contexte. Mettez une ceinture à vos reins. Alors, ce n'est pas la ceinture que je porte ici. Dans le contexte du Proche-Orient ancien, ça correspond à quelque chose de bien précis. Les hommes et les femmes portaient de longues tuniques. En temps normal, quand on était chez soi, détendu, on aimait les porter tombantes, amples, c'était plus simple, c'était plus agréable, plus confortable. Mais dès qu'il fallait se mettre au travail ou dès qu'il fallait se mettre en action, là, évidemment, à ce moment-là, mieux vaut mettre une ceinture, sous peine d'être encombré dans ses mouvements, de s'accrocher partout ou de trébucher. Mettre une ceinture à ses reins veut donc dire se mettre au travail, être en action. Et le temps qui est employé par le verbe du texte original indique que ce n'est pas juste quelque chose de ponctuel, mettez-vous une fois en action, mais que c'est une sorte de disposition qui est prise et qui demeure. On pourrait presque dire, le temps dit, la ceinture, vous la mettiez et vous la gardez, on ne l'enlève pas. Autrement dit, ce que Jésus décrit ici, c'est des serviteurs qui s'appliquent à leur service, que leur maître soit là ou non. Ils le font bien ce service, ils le font consciencieusement. Il ne s'agit pas simplement de se tenir prêt à agir pour le moment où le maître viendra, et au moment où le maître viendra, de se mettre au garde à vous aussitôt pour être à son service. Non, ce n'est pas ça. Il s'agit, pendant l'absence du maître, de tenir la maison, de faire ce qu'il y a à faire, d'agir pour lui comme s'il était là. Petite précision. Le maître était parti dans l'image qu'emploie Jésus à un mariage. Les mariages au temps de Jésus pouvaient durer plusieurs jours. C'est pas mal. Donc, se mettre au travail, tenir la maison, même si le maître n'est pas là, parce que justement, on l'attend. Première attitude. La deuxième image est celle d'une maison qui doit rester éclairée. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Alors, si l'image de la ceinture s'applique plutôt au jour, celle-ci concerne la nuit. Il faut que si le maître arrive, la nuit, la maison soit éclairée. C'est un signe d'accueil qui montre qu'il est attendu. Alors on éclairait avec des petites lampes à huile en argile. La réserve de ces lampes à huile n'était pas très très importante. Il fallait donc veiller sur ces lampes. Il fallait entretenir la flamme, avoir plusieurs lampes allumées, veiller à rajouter l'huile, etc. là où ça manquait. Si on voulait que la maison reste éclairée pour accueillir celui qui devait venir, cela demandait une vigilance, cela demandait des soins particuliers. Les deux images parlent de continuité. On ne sait pas quand va venir le Maître, mais on l'attend. Et on l'attend d'abord dans son cœur. Qu'il soit présent ou qu'il soit absent, on veille à tenir la maison. On veille à ce que tout soit bien. S'il arrive, on veut qu'il soit bien accueilli, qu'il trouve tout comme il aime, qu'il se sente bienvenu, qu'il se rende compte qu'on a pensé à lui pendant son absence et qu'on a veillé sur tout. Cette attente, elle en dit beaucoup. Cette attente, elle dit une attention du cœur. Elle dit une place unique que garde le Maître, qu'il soit présent ou qu'il soit absent. Elle dit une volonté de garder présent en son cœur et en ses actes le maître de maison, même s'il est loin. Elle dit aussi une joie que l'on anticipe, la joie de lui offrir un bon accueil, un accueil impeccable, un accueil qui porte le message « Tu vois, on ne t'a pas oublié. Tu étais là chaque jour de ton absence, présent dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos choix. Regarde, on a maintenu tout cela jusqu'à aujourd'hui où tu viens. » Il nous est arrivé à plusieurs reprises dans notre vie de famille, à quelques reprises, qu'Hélène soit amenée à partir pour quelques jours, soit pour son travail, soit pour aller voir sa famille. Alors on assistait à ce moment-là à des choses assez intéressantes à la maison. Il y avait papa et les deux filles. Après chaque repas, la cuisine était nickel. Chaque soir, le salon était parfait, rangé. Les petites choses que généralement Hélène doit nous demander, et parfois avec insistance, se faisaient alors automatiquement. Même les désordonnés, je ne citerai pas de nom, devenaient plus ordonnés. Ouais, hein, je vous assure, c'est comme ça que ça se passait. Pourquoi ? C'était une manière de dire, elle n'est pas là, mais on l'aime. Elle n'est pas là, mais on l'aime. Et on veut, parce qu'on l'aime, que la maison soit comme elle l'aime, comme elle voudrait qu'elle soit. Et veiller à cela, c'était très concrètement, pendant l'absence, avoir des gestes qui la rendaient presque un peu présente. Exprimer en tout cas qu'elle était là dans notre cœur. Il y avait une joie, une fierté, quand elle rentrait à pouvoir lui dire, écoute, tu sais, tous les jours, on a veillé à ceci, à cela. Si tu savais, si tu avais vu comme c'était. On n'aurait jamais imaginé, pendant qu'elle était absente, de laisser la maison sans dessus-dessous pendant 3 jours et de tout ranger à la dernière minute. On n'aurait jamais pensé ça. Ça aurait été presque une trahison. C'est ce que j'appelle l'attitude d'attente aussi par rapport au Seigneur Jésus. Cette attitude concrète, active, qui vient du cœur. Ce n'est pas juste le souci d'être impeccable au garde-à-vous pour le jour J de sa venue. Ce n'est pas non plus la pression qu'on se met chaque matin en disant « Waouh, c'est aujourd'hui le grand jour, il faut que je m'électrise pour ça ». Non, c'est plus simplement, plus sereinement, plus profondément un désir de dire chaque jour, par mes choix, par mes gestes, « Seigneur, tu comptes pour moi, Seigneur, je pense à toi, Seigneur, je fais ça pour toi ». C'est le désir d'offrir au jour J du retour, non seulement une maison rangée pour le jour du retour, mais le témoignage que pendant toute l'attente, on a gardé dans son cœur, dans ses actes, celui que l'on aimait. Alors, comment allons-nous vivre concrètement en tant que chrétiens cette attente? Nous sommes invités à la vivre dans l'amour. Ce qui doit rester éveillé en nous, c'est avant tout cet amour vivant, concret, pour le Seigneur. C'est ce qui doit rester éveillé en nous, c'est le désir de dire au Seigneur que pendant tout ce temps qui nous sépare de son retour, chaque jour nous pensons à lui et nous voulons lui faire une place dans nos choix, dans nos actions, dans nos orientations. Une attente à vivre dans l'amour, l'amour concret, l'amour au quotidien de nos actes. Dans cette perspective aussi, je l'ai déjà un peu dit, nous pouvons vivre l'attente du Seigneur dans la sérénité. Pas besoin de nous battre les flancs chaque matin en nous disant « Il revient aujourd'hui, je dois être prêt ». Nous savons qu'il revient. Il revient peut-être aujourd'hui. Il reviendra peut-être dans 1 an, peut-être dans 10 ans, peut-être dans quelques générations. Nous pouvons vivre cela sereinement. Parce que notre part, notre désir, notre cadeau, celui que nous voudrions lui offrir, c'est notre attente fidèle et aimante tout au long du temps de l'attente qui aura été la nôtre. Si le Seigneur revient après ma mort, j'aimerais pouvoir lui dire, Seigneur, tu sais, chaque jour où j'ai vécu, tu étais là, dans mon cœur. S'il revient de mon vivant, j'aimerais qu'il puisse me trouver non pas dans le désarroi de ceux qui doit rattraper tout ce qu'il n'aura pas fait, mais dans la continuité d'un service aimant et fidèle. Et je dirais que s'il y a cette continuité d'une vie avec Dieu où nous aimons le Seigneur dans nos actes de tous les jours, nous n'avons pas non plus à ce moment-là à nous inquiéter de ce que nous ferons précisément à l'instant T de son retour. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à cela, en disant, si Jésus revient à un moment donné et que je suis en train de faire quelque chose que, je ne sais pas, enfin, que je ne suis pas juste en train de le servir ou d'être au culte, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que quand le Seigneur reviendra, s'il revient de mon vivant, ce sera pour moi en tant que pasteur pendant un jour de congé, pendant que je suis en train de faire du jogging. Peut-être ce sera pour vous pendant que vous serez à votre travail. Ou peut-être que pour l'un ou l'autre pendant qu'il fera ses courses. Ou peut-être la nuit à l'heure du sommeil le plus réparateur. Et l'important, ce n'est pas de savoir ce que nous ferons ou ne ferons pas à cet instant T précis. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait eu cette continuité d'amour et de service jusqu'à cet instant précis. Et c'est ça, il y a eu cette continuité, c'est ça qui va faire qu'on ne sera pas pris au dépourvu par son attente. Bien sûr, plus fondamentalement, pour ne pas être pris au dépourvu par l'attente, par le retour du Seigneur, il est important, il est essentiel que nous soyons assurés que nous sommes en paix avec Dieu, que nous avons accepté son pardon, que lui avons donné notre vie pour qu'il puisse vraiment nous transformer et nous pardonner. Parce que nous savons que lorsque le Seigneur viendra, il viendra aussi pour juger les vivants et les morts. Et la bonne nouvelle, c'est de dire qu'aujourd'hui, tant que nous sommes vivants, il y a place pour être réconciliés avec le Seigneur, recevoir sa paix, recevoir son pardon. Mais si nous avons accepté ce pardon que Dieu nous donne, sur cette base du salut reçu, avec une attitude où régulièrement le Seigneur est présent dans notre cœur, nous pouvons attendre sereinement. Cette attente, troisièmement, nous sommes invités à la vivre activement. Attendre, ce n'est pas rester passivement, sans pouvoir rien faire, jusqu'à ce que quelque chose arrive enfin. Non, dans l'attente et l'espérance, nous pouvons agir. Et nous pouvons montrer par nos actes quotidiens à notre Seigneur qu'il compte pour nous. Nous pouvons même prendre part à son œuvre qu'il fait, qu'il a commencé et qui trouvera son accomplissement lorsque Jésus reviendra. Et là, il faut se mettre tout à fait dans une situation à l'opposé de ce que la pièce de Beckett que je citais tout à l'heure nous propose. Nous ne sommes pas dans un vide où rien ne se passe, comme Samuel Beckett voudrait nous faire croire. L'œuvre de Dieu, elle est en marche. Et le retour de Jésus couronnera cette œuvre. Et donc, il y a place pour une attente où je mets une ceinture à mes reins, où je prends place à l'œuvre de Dieu qui se fait. Et où je peux le faire parce qu'il y aura un aboutissement à cette œuvre, parce qu'il y aura un couronnement à cette œuvre et que ce couronnement sera éclatant. Lorsque Jésus est monté au ciel, pendant un temps, les disciples sont restés, les regards un petit peu trop comme ça, figés sur le ciel. Et un ange est venu et leur a dit, « Ne restez pas là, regardez le ciel, il y a autre chose à faire, soyez mes témoins, avancez !» Il en est de même pour nous. Attendre le Seigneur Jésus, c'est entrer dans l'œuvre qui se fait, en sachant que cette œuvre aura un couronnement magnifique lorsqu'il fera toute chose nouvelle et apportera la victoire sur le mal et le bonheur de l'éternité. Et enfin, cette attente, nous sommes invités à la vivre dans la joie et dans l'espérance. J'ai parlé tout à l'heure de ces expériences d'absence temporaire que nous avons vécues familialement. Et nous avons essayé, nous vivions assez naturellement le fait de garder un cœur pour celle qui était partie. Il y a une autre façon dont on peut vivre ce genre de choses. C'est dans un cas de décès. Quand il y a un décès, c'est pareil. D'une certaine manière, on cultive la mémoire de celui qui est parti. On valorise ce qu'il aimait. On se dit, il ou elle aurait aimé cela. Et on agit de ce fait-là. Et dans cette perspective-là. Les attitudes sont proches avec ce que j'ai raconté tout à l'heure quant à valoriser l'absence de quelqu'un. Mais le fond est tout différent. En cas de décès, on sait une chose, c'est qu'il n'y aura plus de rendez-vous. Il n'y aura plus de retour de celle ou celui qui est parti. On sait que celle ou celui que l'on aimait ne viendra plus sonner à notre porte. Et ce qui veut dire qu'à un moment donné, ou tout en gardant la mémoire, on ne peut pas constamment être dans le fait de faire quelque chose qui aurait fait plaisir à. Il faut aussi, comme on dit, tourner la page et continuer la vie qui avance. Par contre, quand on sait que la personne qui est partie va revenir, là, c'est tout différent. Là, on a une motivation pour agir, on a une motivation pour se souvenir. Et je veux dire que le contraste entre ces deux situations, qui semblent proches à certains égards, ce contraste doit nous saisir. Et cela nous rappelle que notre attente est forte de la perspective d'une rencontre. Le Seigneur viendra vers nous et nous le verrons vraiment. Viendra le moment où la rencontre se fera, elle sera magnifique. Et c'est vers cela que s'oriente notre attente. C'est aussi cela ce qui lui donne sa force, ce qui lui donne sa joie, sa lumière, son élan. Nous n'attendons pas un Godot qui ne viendra jamais. Nous attendons le Seigneur, le vivant, le ressuscité, celui qui tient entre ses mains le commencement et la fin de l'histoire. Nous attendons tout simplement celui que nous aimons et qui viendra vers nous, vraiment. L'apôtre Pierre, encore lui, nous le rappelle. 1 Pierre 1, verset 8. Vous l'aimez, lui, sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie indescriptible et glorieuse. Et nous le verrons vraiment, celui que nous aimons déjà. Que cette joie, que cet amour soit la lampe vraiment, que nous gardons toujours allumée. Jésus est l'étoile du matin. Il habite déjà dans nos cœurs. Nous le verrons. Notre joie sera totale, elle sera ineffable. Franchement, ça vaut la peine de l'attendre, lui.